Tel que promis, je reçois en studio M. Jackie Lebas, qui est documentariste, aussi journaliste, mais avant tout, vous étiez, M. Lebas, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les Québécois. Monsieur Très heureux.
Monsieur Lebas, vous étiez à directeur de cinéma. Comment un directeur de cinéma se retrouve en 2018 en Ukraine?
Je suis amoureux de l'image depuis l'âge de 14 ans. Et à 19 ans, j'ouvrais ma première salle de cinéma qui s'appelait le Chaplin parce que c'était une ouverture en mars, trois mois après le décès de Charlie Chaplin le 25 décembre. Et je voulais rendre hommage à ce grand homme. Je suis un amoureux de l'image animée. Avec l'image, on peut tout faire. Mmh. On peut faire rire, on peut faire pleurer. Et puis, l'image du documentaire, elle ne triche jamais.
C'était pas votre premier sujet, la guerre en Ukraine. Vous étiez là bien avant, mais vous étiez là pourquoi?
Oh, mon tout premier sujet dans l'histoire du cinéma, je tournais un film sur les coulisses du cirque. J'ai suivi un cirque pendant six mois. C'était déjà assez exotique dans les années 70. Alors, je suis arrivé en Ukraine le 8 janvier 2018 pour tourner un film sur Tchernobyl. Ça reste un secret pour beaucoup de gens parce que mal documenté. Au moment de ce premier accident nucléaire, il ne faut pas l'oublier, Tchernobyl est dirigé par l'URSS. Et dans les livres d'histoire russe, je crois qu'on ne peut jamais trouver la réalité. Mmh. Alors j'arrivais avec mes impressions à moi, les choses que vont me raconter les anciens, ceux qui ont vécu. Et je pense que j'ai fait un film sur Tchernobyl qui est plus proche de la vérité et aussi du nombre de morts à travers le monde à cause de la manipulation plus que maladroite de certains politiques russes.
Oui, et nous, ce qu'on connaît ici en Amérique, c'est la série sur HBO là, qui était consacrée à Tchernobyl.
Alors qui était intéressante, mais ils n'ont pas eu l'autorisation de tourner en Ukraine. Mmh. Ils ont tourné dans une centrale désaffectée en Lituanie. Mmh. Et moi, je me sentais tout à fait chanceux avec mes documents à la main et l'autorisation de passer trois mois à Tchernobyl. Enfin, certains trouveraient que ce n'est pas une chance de passer trois mois à Tchernobyl, mais l'équipe était parfaitement
sécurisée.
Nous tournions 4 heures. On était expulsés du site, nos vêtements détruits tous les soirs, la voiture désinfectée et nous partions à 100 km avec un traitement à l'iode toute la nuit.
Ah oui.
Et nous revenions le lendemain matin et j'ai des images incroyables de Tchernobyl.
Ben, il y a eu un impact, j'imagine, sur la nature aussi. On a parlé souvent de la faune aussi.
Bien sûr.
OK.
Que la nature a été impactée. Et surtout les hommes. Aujourd'hui encore, dans mon village, on meurt à 14 ans, à 16 ans de cancer du cerveau. Mmh. Des jeunes femmes meurent de cancer très intime à 25 ans, 30 ans. Mmh. Alors, on ne va pas dire que c'est le premier mauvais cadeau des Russes. Il y en avait un avant, 1932-1933. L'Holodomor, Staline assassine 6 millions d'Ukrainiens dans cette région du Donbass aujourd'hui. N'allons pas chercher plus loin les origines de la guerre. Après avoir en une année assassiné tous ces Ukrainiens, il va donner leurs terres, il va donner les fermes, les maisons à des populations russes qu'il fait venir des endroits les plus pauvres du nord de la Russie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une population de 90% de Russes dans le Donbass quand commence cette guerre.
Le village dont vous parlez, c'est Jytomyr, c'est comme ça qu'on dit ça?
Oui, Jytomyr.
Jytomyr qui est près de Kiev, c'est là que vous étiez quand la guerre a éclaté?
Et que je suis toujours, j'y étais encore il y a 5 semaines, et j'y retourne début juin. C'est là que j'ai ma maison, que j'ai ma famille maintenant. Et Jytomyr a quelque chose de particulier dont je peux parler quand je suis chez vous, mais que je ne peux pas dire là-bas quand je suis sur Facebook. C'est la ville d'Ukraine où on fabrique les chars d'assaut. Mmh. C'est la ville d'Ukraine où il y a l'aéroport militaire qui accueille les F-16 qui arrivent là cette semaine. Et c'est une ville de garnison pour 7000 hommes. Ça fait assez d'arguments pour que le responsable du Kremlin ne nous oublie pas dans ses envois de missiles.
Comment vous avez vécu, vous, le début de la guerre?
Oh, c'était très angoissant, mais c'est comme hier. Le 24 février 2022, pour moi, il était 16h, donc un tout petit peu après l'avancée sur Kiev. Trois hélicoptères russes ont survolé ma maison qui a tremblé très fort. Et dans les secondes qui suivaient, dans ma ligne d'horizon, par la fenêtre de mon balcon, j'ai vu l'aéroport militaire exploser, certainement ses citernes de carburant. Et ça y est, on était dedans, la guerre était commencée. Une semaine avant, j'étais dans les rues de Jytomyr, je faisais des interviews pour une chaîne de télévision. J'ai partagé avec une dizaine de couples qui s'en allaient tranquillement à la messe du dimanche et qui me disaient « il n'y aura pas de guerre, c'est une invention européenne. Nous n'avons jamais fait de mal à nos voisins, on n'a aucun ennemi et la guerre est une légende. » Alors moi, je l'ai vécu... C'est-à-dire que les Ukrainiens m'ont transformé en petit héros du village parce que ils étaient tellement courageux, les grands-mères qui faisaient des filets de camouflage pour les chars avec des lanières de tissu et des filets de pêche, les gamins de 15 ans qui faisaient des cocktails Molotov, les gamines de 17-18 ans qui troquaient la mini-jupe pour le treillis militaire et qui s'engageaient dans l'armée. Comment voulez-vous partir? 1600 Français sont partis ce week-end-là, 600 la semaine d'après, et j'avais des relances tous les jours de l'ambassade de France, et j'ai dit, je suis libre, j'ai ma carte de sédentaire ukrainien, et je resterai en Ukraine tout le temps que cette guerre n'est pas finie, parce que ras-le-bol des mensonges sur les radios, les télévisions, qui les pauvres racontent ce qu'on leur dit, et la vérité n'est pas dans les livres d'histoire russe, sinon ça se saurait. Donc je voulais rester en témoin, privilégié, et j'ai réussi ma mission, puisque presque aussitôt, les gens m'ont fait confiance, les grosses chaînes de télévision. D'ailleurs, honneur à vous dans votre pays, puisque le second jour, enfin presque le 26 février, pour la première fois, m'appelait Mario Dumont, me demandait de participer chaque jour au débat, et j'ai fait des dizaines, des centaines de reportages avec lui, et je suis passé encore dans ses studios il y a une semaine, où il m'a chaleureusement accueilli, en me remerciant d'avoir apporté tant d'images différentes, parce que les télévisions sont quand même encadrées, on les emmène où il faut pour filmer, et les pauvres, ils ne peuvent dire que ce qu'ils voient. Moi, j'étais sur place, bien introduit, je suivais des militaires, je suivais les frappes, je me déplaçais la nuit, bien qu'il y ait le couvre-feu, et j'étais là aux lueurs du jour pour faire le film que je présente dimanche, ici à Baie-Comeau, et c'est un film complètement touchant et tragique en même temps, parce que ma façon de filmer, c'est de laisser comprendre qu'il y a une grande tragédie, mais tout est insinué, chaque personne devant une image de destruction peut imaginer la terreur et quelle nuit ont passé les civils, mais à aucun moment je ne montre un cadavre dans mes films. Et là encore, dans le film Retour d'Ukraine, je montre un pays meurtri, terriblement blessé, parce que les Ukrainiens sont très, très humains, très amoureux de leur famille, très attachés.
Résilients.
Oui, et résilients en plus, bien sûr. Mais ils ont tendance à vivre sur eux-mêmes. On ne dit pas ce qui ne va pas. On va dire aux voisins « bonjour, ça va, bon anniversaire, bonne fête ». Mais on ne dit jamais quand ça ne va pas, et encore moins à un étranger. Alors j'ai appris à les connaître 4 ans, 5 ans après, déjà oui, 5 ans. Je rentre dans les foyers, dans leur âme. Les Ukrainiens disent de moi que j'ai compris l'âme slave. Tout en la respectant, je sais que ce sont des hommes qui ne pleurent jamais.
Oui. Mais se déplacer comme vous l'avez fait en Ukraine, c'est pas simple, là. Je veux dire, il y a des barrages, j'imagine, de réguliers, tout ça. Comment vous avez réussi?
Eh bien, à pied, on peut faire beaucoup de choses. Après, peut-être que j'en rirai avec les militaires. Maintenant, je ne dis pas encore tout parce que j'y retourne dans 4 semaines. Mais j'ai réussi surtout par le fait que j'avais compris immédiatement qu'il ne fallait pas que je me transforme en héros de guerre avec tout l'harnachement, le treillis, le casque et la grosse caméra. J'ai donc troqué tout mon matériel professionnel contre un très 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 bon iPhone et je suis parti en civil. Je me suis confondu dans la foule avec des vêtements ukrainiens et j'étais vraiment l'ouvrier qui part dans la nuit travailler à l'usine. Et j'ai pu rentrer très proche des soldats. J'ai tourné à Mariupol, à Boutcha, à Irpin, à Borobianka, à Rivne, à Ovrouch, à Korosten, à Jytomyr bien sûr, à Kiev. Je suis allé sur tous les fronts et on peut lire toute cette liste au générique de mon film. Je pense que j'ai été très proche, notamment des civils de Boutcha et de Irpin en banlieue de Kiev, quand les Russes ont un comportement complètement inacceptable, que chaque soir les chars d'assaut se garent dans les entrées des pavillons comme s'ils étaient les propriétaires et que pour la nuit ce soit une nuit de débauche où on prend les maisons, où on se nourrit dans les réserves qu'il y a dans les caves.
Ils consomment beaucoup d'alcool aussi.
Et voilà. Et les chars d'assaut remplis de bouteilles d'alcool, de vodka bien sûr, jusqu'au plafond, des chars d'assaut qui sont conduits par des jeunes hommes ivres à partir de 16 heures, qui ont un comportement plus qu'inacceptable toute la soirée, toute la nuit, puisque ça va être des orgies qui sont découvertes à Boutcha et dont j'ai été 2 jours vraiment le témoin.
Ouais. C'est quoi l'impact social, selon vous, à moyen, long terme? C'est sûr qu'il est immédiat, là, on le ressent, mais je veux dire, c'est quoi comment on va pouvoir se relever de ça? Qu'est-ce qui va rester comme ravage chez le peuple ukrainien?
C'est vraiment mon sujet du Bauban. L'après-guerre. Dans la guerre, il y a ceux qui sont au combat, sur le front, il y a ceux qui sont en attente, qui ont tellement de travail pour assurer la vie de tous les jours, la survie. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'argent qui rentre. Il faut s'occuper des enfants et essayer de donner l'illusion de fêter Noël, de fêter Pâques. Mais après, le chaos arrive. Et là, ça ne sera pas une guerre de 3 ans, 4 ans qu'il faudra oublier. Ça sera affronter l'avenir avec les hommes qui ne rentrent pas, avec les hommes qui rentrent handicapés, avec les hommes qui rentrent complètement choqués d'avoir eu un permis de tuer pendant 3 ans, avec des hommes qui se seront adonnés à l'alcool et à d'autres substances. Et moi, j'ai très peur. Les derniers couples qui vont se retrouver vont se déchirer. Les enfants de 2 ans n'ont pas vu leur papa depuis leur naissance. Ouais. Je ne sais pas comment on se remet et qu'on rentre sur les rails quand on a eu la liberté de tuer pendant presque 3 ans. Alors,
Mais il va falloir s'en occuper.
Oui.